Chers amis, Erev Tov, Bechem Hashem, Nase, Venatsliach, on est ce soir le lundi 20 du mois de mars et déjà Kafret du mois de Adar, Lechem Tovim ou Shalom. Deux shiurim qui vont se suivre blineder l'un après l'autre puisque ce shiur a été acheté par monsieur et madame Elfersi Yohanan. Voilà, que je prononce bien. C'est pas Elfasi, c'est Elfersi, Yohanan, Bezrat Hashem, pour l'élévation de l'âme de Rachel, Rachel, Bat Sassia, et Bet Cohen, Zichron Ibracha, Bezrat Hashem, Zichron Ibracha, de la part de tous ses enfants, Valken, Yihiratson, Milifne, Bore Olam, Shakadosh Borchou, Isaac, Otanu, que le mérite de cette étude, Yéalet, Nishmata, Kezor, Arakia, Shel Aishat, Snomarat, Rachel, Rachel, Bat Sassia, et Bet Cohen. On commence tout de suite notre étude, Be'ezrat Hashem Yitbarach, sans plus tarder, à propos d'un mot qu'on entendra tous un jour, la paracha de Vaïkra qui démarre le livre de Vaïkra, justement, troisième livre de la Torah, avec ce fameux petit Aleph dont nous allons parler de façon beaucoup plus profonde que d'habitude. Vaïkra est écrit avec un Aleph Zeira. Bien sûr, tout le monde connaît l'une des significations les plus connues de ce petit Aleph, qui nous dit que ce petit Aleph va faire allusion aux enfants qui sont petits de taille, contrairement aux adultes en général. Et donc, comme les enfants sont purs, et qu'on parle de korbanot, de sacrifices qui viennent nous rendre purs de nos fautes, de nos méfaits, ou alors tout simplement de venir remercier Akadosh Baruch Hu, comme c'est le faire un enfant qui dit Toda Rabba, qui dit merci de par son éducation, eh bien, nos sages nous disent que viennent les petits s'occuper de ce qui les concerne. Car pour apporter un korban, il faut être quelqu'un de pur, il faut prendre sur soi la teshuva, et vive l'innocence d'un enfant, du petit Aleph, qui fait un clin d'œil au fait que nous sommes tous les enfants d'Hachem, et qu'à l'image d'un enfant qui regrette ou qui veut demander pardon, avec le cœur brisé, en disant « je m'excuse, je n'ai pas fait exprès », de la même façon, nous avons tous le devoir de nous rapprocher du Créateur avec ce petit Aleph. Vaïkra, que les petits qui sont purs viennent s'occuper de grandes choses qui nous rendent purs, comme les korbanot au sein du Bet Amigdash. Oufren, le Baal HaTorim, lui, va nous donner une autre explication que nous allons d'ailleurs étudier ensemble. Okay. On va aller par contre avec le Baal HaTorim, juste un tout petit instant ce qui me concerne. J'avance un petit peu trop ici, voilà. Et Bidjouk. Omer Kacha. Vaikra, avec un petit Aleph, Zeira, chez Moshe, Loratza Lichtov et la Veaker, que Derer, chez Neymar Bibilaam, car Moshe Rabbeinu, quand il a été appelé par Dieu, à Kadosh Baruch Hu, il appelle, Vaikra, il a appelé, El Moshe, vers Moshe. Moshe Rabbeinu est tellement humble que quand il a dû écrire ce verset-là que Dieu l'a appelé lui, il a dit, j'ai honte. Je vais marquer à tout le monde que Dieu m'a appelé à moi. Écrit le Moshe, Dieu m'appelle à moi. C'est ce que c'est d'être appelé par le roi des rois. On n'a même pas notion. Comme je vous l'ai dit, un jour, on sera tous appelés devant le roi des rois. Mais Moshe Rabbeinu est tellement anave que quand Dieu l'appelle, il le marque avec un petit Aleph, nous dit le Baal HaTorim. Comme c'est marqué Bilaam. Et qu'est-ce qu'il y a marqué pour Bilaam là-bas dans le livre de Bamidbar, dans le chapitre 23, verset Dalet? Là-bas, il y a marqué Vayaker. Ça veut dire quoi? Perush Adamar, Perush Adavar, que quand Dieu il a appelé Bilaam, ouh, il a appelé Bilaam, il n'a pas marqué là-bas Vaikra. Vaiker, ça veut dire le champ de Mikré. Comme par hasard, Dieu va utiliser le domaine du style je t'appelle, c'est tombé sur toi, parce que c'est toi qui as été choisi parmi d'autres, Bilaam. Mais Dieu ne veut pas te faire honneur. Par contre, il veut faire honneur à Moshe. Et étant donné que Moshe ne peut pas changer la parole de Dieu, et que Dieu lui a dit « Vaïkra », et que lui ne voulait pas montrer à tout le monde que Dieu l'appelait personnellement, alors il a réduit le « Aleph » du « Vaïkra » en tout petit, disant « Je suis obligé de le marquer, mais je représente l'humilité dans le sens où, si j'avais pu éviter de le marquer, je ne l'aurais pas marqué. » Pour que les gens pensent que tout comme Bilaam, il a été appelé soi-disant par hasard, « Vaïker, Mikré », moi aussi Dieu m'a appelé comme ça, par hasard. Allez, il aurait pu appeler Aaron, il aurait pu appeler Yoshua ou les Ékénim, Nadav et Avihu, Elazar et Itamar, d'autres personnes, le Tnel Ben Kenaz, d'autres tzadikim qui étaient là-bas. Et regardez la suite. Kilu lo nir'e lo Hashem, et là Bemikra, donc Bemikre. Donc comme je viens de vous dire, Moshe Rabbeinu a voulu éviter de marquer le Aleph pour faire comprendre que le mot voulait dire qu'il a été appelé par hasard comme tout autre aurait pu être appelé. Va'amar lo Hakadosh Baruch Hu lirtov gam et Aleph bektiva ktana. Il lui dit, écoute, comme on dit, le respect d'un homme, c'est sa volonté. Tu veux ne pas écrire le Aleph, moi je te dis Vaikra. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Tu fais un petit Aleph. Et Dieu était d'accord avec lui pour tout ça. Ok, tout ça c'est très mignon, seulement on a un gros problème. Dans l'étude, quand on lit ça, on va dire c'est super, magnifique, quelle humilité à Moshe. Seulement quand on a un petit peu plus de retenue au sein de la Torah, on va se poser une très très grande question qu'on retrouvera dans la paracha de Yitro, duquel il est marqué là-bas, Vayered Hashem al Arsinaï, donc on est dans la paracha de Yitro, d'accord? Paracha de Yitro, qui est la cinquième paracha du livre de Shemot. Tandis que là, on est dans le livre de Vaikra, donc dans l'autre livre, numéro 3. Et on nous dit que Moshe Rabbeinu alav shalom, parce qu'il était très humble, il n'a pas voulu donner comme message à aux générations que Dieu l'a appelé. D'accord, je comprends bien. Alors dans ce cas-là, on a envie de poser la question à Moshe en lui disant, ou plutôt au Baal HaTorim qui donne ce pérouche, qu'est-ce que tu fais du verset duquel est marqué bien avant, où Akadosh Baruch Hu va appeler Moshe, et là-bas dans la Torah, le mot est écrit Vaikra en entier, avec un Aleph aussi épais que les autres lettres. Vayered Hashem al Har Sinai, Vaikra Hashem el Moshe. El Rosh Ha'ar Vaya'al Moshe Bechoulé. Si tu me dis que Moshe Rabbeinu Alav Shalom, il était humble et qu'il a marqué le Aleph en petit, parce que Dieu il a appelé et qu'il n'a pas voulu montrer aux générations qui viendront que c'était lui qui était appelé et qu'il était humble. Dans ce cas-là, quand on est humble, on est humble tout le temps. On ne peut pas être humble lundi, orgueilleux le mardi, moyen le mercredi, puis super humble le jeudi, puis hyper hyper humble le vendredi, puis hyper orgueilleux le shabbat pour devenir humble. Oh, ou t'es humble, ou t'es pas humble. Faut décider. On joue pas au humble. Ou on l'est, ou on ne l'est pas. Et voici que la Torah nous lance quelque chose, un défi à comprendre. Où là-bas, dans la paracha de Yitro, Moshe Rabbeinu n'a aucun problème de marquer Vaikra avec le Aleph. Tandis que dans cette paracha de Vaikra, la Torah nous l'écrit en petit. Pourquoi? Pourquoi? Chas v'shalom, est-ce qu'on pourrait penser que Moshe aurait de la fausse humilité? La réponse est Badaï Shelo. Mais il faut connaître la réponse pour comprendre pourquoi dans la paracha de Yitro, quand Dieu appelle Moshe, Moshe n'a aucun problème, il ne discute même pas, il marque Vaikra, allez avec un Aleph, tandis que ici, il écrit avec un petit Aleph. La Tshuva Nifla, et elle est remplie d'une grande leçon de morale que j'aimerais partager avec vous pour l'élévation de l'âme de cette personne, Rachel, qui a quitté ce monde, puisque ce shiur a été acheté pour elle, Ezrat Hashem, que sa neshama monte très haut dans le ciel, avec cette explication de nos Chachamim qui vaut vraiment le détour. Oufren. Une fois, il y a un avraire comme ça, un étudiant, qui vient voir le Rosh Yeshiva et qui lui dit, Godrav, je suis désolé de vous déranger, j'ai besoin de vous parler. Le Rosh Yeshiva, qui était un homme extrêmement puissant en Torah, en sagesse, le regarde comme ça et lui dit, et en quoi puis-je t'aider? Il dit, voilà, j'ai un problème, je suis trop orgueilleux. Et ça m'empêche de pouvoir étudier comme il faut. Alors j'aimerais, s'il vous plaît, si cela vous est possible, que vous me donniez une réponse, comment est-ce que je peux vaincre mon humilité, mon orgueil pour devenir humble comme Moshe Rabbeinu. Le Rav lui dit, oula, la question que tu poses est une question très forte. Laisse-moi un moment de réflexion. Attends-moi dans le bureau juste à côté, le temps que je réfléchisse pour te donner une réponse qui puisse te construire. Top. Oufren, vous savez que pour pouvoir, avec l'aide d'Hachem, être un socle de la Shekhina, faut avoir quatre choses avec soi. Pour que la Shekhina repose sur une personne, Chazal, ils disent, En Hashem Mashre Shchinato Ala Adam Ela Im Chacham Gibor Ashir Ve'anav. Pour que la Shekhinah repose sur un homme, faut qu'il soit ou Chacham Gibor, c'est-à-dire ou un homme très sage, ou un homme très puissant, qui résout beaucoup de problèmes, ou un homme très riche, ou un homme très humble. Ou les quatre ensemble. S'il n'a pas ça, alors on ne comprend pas. De plus, il y a un mot qui paraît complètement bizarre. Gibor, quel rapport? Un héros? Quel rapport? Que tu me dises qu'il soit Chacham, je comprends. Riche, parce que je comprends. Humble, je comprends. Mais pourquoi tu me dis Gibor? Qu'il soit fort dans la vie. Alors, le Rav reçoit comme ça la visite d'un homme qui vient le voir pour un de ses problèmes et il lui dit, voilà, donc je vous lis un petit peu l'histoire telle qu'elle est marquée. Le Rav reçut un homme d'affaires qui avait de très 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 grosses difficultés financières et qui avait besoin d'un prêt important d'argent, bien sûr, comprenant un remboursement mensuel. Et il demanda au Rav s'il ne connaissait pas une personne dans ses connaissances qui serait prêt à rentrer ou à associer ou de lui prêter une très grosse somme d'argent. À ce moment-là, le Rav se mit à sourire et lui dit, écoutez, ben, ça tombe bien, il y a dans la pièce d'à côté un jeune étudiant, allez le voir et il vous donnera une réponse. L'homme d'affaires se lève, va dans la pièce d'à côté, le jeune, très surpris de le voir entrer, lui dit, Ken, qu'est-ce qui se passe? Il lui dit, c'est le Rav, le Rosh Yeshiva qui m'a envoyé chez vous parce que j'ai des difficultés financières et j'ai besoin d'un prêt. Là, il regarde, d'un prêt d'argent? Il dit oui. Il dit, mais moi, j'ai même pas de quoi manger, je mange à l'Yeshiva, je dors dans un lit qui m'est prêté par l'Yeshiva, quel rapport avec moi? Alors, il retourna voir le Rav, et le Rav lui dit, qu'est-ce qu'il vous a dit? Il a dit qu'il comprend pas pourquoi j'ai été envoyé chez lui, qu'il n'avait pas du tout d'argent, et qu'il pouvait pas du tout m'aider, et qu'il est perdu, quoi, avec ma question. Et alors, le Rav lui dit, écoutez, vous allez voir une personne, voilà son numéro de téléphone, appelez-le, lui aussi c'est un homme d'affaires, si votre affaire l'intéresse, ou il vous prêtera de l'argent, parce qu'il a un bon cœur, il a beaucoup de Yirat Shamaim, ou il rentrera avec vous associé. Merci, Todak Vodarav, et il s'en alla. Puis voilà que tout de suite après cela, une femme arriva avec un poulet dans les mains qui n'était pas cachère pour elle. Elle avait un doute. Alors elle a posé la question au Rav, si le Rav pouvait lui donner la réponse à savoir si ce poulet était cachère ou pas. Et le Rav lui dit, écoutez, ça tombe bien, on a un nouveau possek qui vient d'arriver, il est juste à côté. Elle va voir dans cette même pièce cet étudiant, elle lui présente le poulet, il regarde le poulet, il lui dit, mais écoute, j'en sais rien, moi j'ai même pas encore fait Yoredea, j'ai pas encore étudié sur Véter, mais fou un Yoredea. C'est très trouline, Yoredea, je suis dans les Gmarot, je suis dans Baba Mitzia, Baba Kama. Mais j'y connais rien. Alors elle vient voir le Rav, lui dit, écoutez, il a dit qu'il y connaît rien. Ah, alors montrez-moi le poulet. Et le Rav regarde le poulet, lui dit, non, les ficolas svarot, pour moi, ici, il est cachère, vous pouvez le donner à manger. Très bien. Encore un instant plus tard, arrive un couple chez le Rav. Et le Rav voit que la femme arrive en pleurs, le mari, il est très triste, car ils ont fixé une date de divorce. Et ils veulent donner une dernière chance à leur couple. Ils ont un problème de Shlom Bayit. Alors, le Rav les écoute comme ça brièvement. Shlom Bayit, il dit, écoutez, ça tombe bien. On a un spécialiste du Shlom Bayit qui est juste à côté. Allez le voir. Le jeune, une fois de plus, voit encore des gens qui rentrent dans la pièce. Shalom, le Rav de Rosh Yeshiva nous a envoyé chez vous. On a un grave problème de Shlom Bayit. Il commence à chacun pleurer, expliquer ses problèmes. Il dit, mais moi, je ne suis même pas marié. Je ne sais pas quoi vous dire. Je ne sais pas. Essayez de vous arranger entre vous. Le couple comprend qu'ils ont affaire à une personne qui ne peut pas du tout les aider, qui n'a ni l'expérience, ni la sagesse des mots, ni rien. Ils se lèvent et le Rav, il leur dit, alors qu'est-ce qu'il vous a dit? Il n'a rien à nous dire, il comprend rien ce qu'on lui raconte en plus, et de qui plus est, il n'a aucune expérience et il n'est pas du tout formé pour ça. Le Rav, il les écoute, très brièvement, il voit exactement d'où vient le problème, il le règle très rapidement et le couple s'en va. Et voilà que le jeune sort. Il demande l'autorisation de voir le Rav, et le Rav lui dit, approche-toi. Et le Rav lui a dit comme ça, mais je comprends pas, tu me dis que tu avais de la gaava, tu me dis que tu avais de l'orgueil. Il lui a dit, oui, bien sûr que j'ai de l'orgueil. Alors il dit, je comprends pas. Pour avoir de l'orgueil, il faut avoir des choses à vendre. Quand on a de l'orgueil, avoir des choses à vendre. Tu n'as ni argent, tu n'es pas un tamid racham, tu n'as pas été capable de prêter de l'argent, t'es pas riche. On avait dit qu'il y avait quatre personnes sur lesquelles la shrina reposait. C'était le riche, le gibor, vous vous rappelez? Le racham, celui qui est humble. Il lui dit, tu as dit que tu étais orgueilleux. Pour avoir l'orgueil, il faut savoir de quoi s'enorgueillir. Tu n'as ni argent, tu n'es pas encore racham, tu n'es pas gibor, tu as eu peur dès que quelqu'un rentre, tu as peur, tu n'as aucune expérience de la vie. D'accord? Donc, si tu veux être humble, c'est par rapport à quelque chose que tu possèdes. Comme tu n'as rien dans les mains, tu n'es ni orgueilleux ni humble. Ton combat n'existe pas. Il n'y a pas plus orgueilleux que de croire qu'on a de l'orgueil quand on n'a de rien. Quand on n'a pas de quoi s'enorgueillir. Azalma Tamid Gaï lui a dit, va étudier la Torah et c'est mieux pour toi. Cet élève lui dit dans ce cas-là, je voudrais comprendre quelque chose, Gwadarav. Si tout le but de ce monde, c'est d'arriver à l'humilité parce qu'on a beaucoup de choses, on a de quoi se vanter, on a réussi dans la vie, on a de l'argent, on est intelligent, on sait faire les shlom bayit, on sait prêter de l'argent, on sait aider les gens. Alors je vais te poser une question, il lui a dit. Pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu, il a choisi la montagne du Sinaï? Dans ce cas-là, s'il a choisi cette montagne parce qu'elle était petite et basse par rapport aux autres montagnes, leur Tavor, leur Nevo, alors pourquoi est-ce qu'il n'a pas pris une vallée? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas pris un Vadi? Un endroit qui est creux, qui va vers le bas. J'explique sur ça, tout simplement quelque chose de magnifique. Et on reviendra à Moshe Rabbeinu alav shalom. Il dit comme ça, celui qui est humble parce qu'il a de quoi s'enorgueillir, alors lui est appelé le vrai humble. Une vallée, un vadi, un creux, un trou, ne peuvent s'enorgueillir de quoi que ce soit dans ce monde. Ils sont vers le bas, on ne se bat pas pour une vallée. Il y a beaucoup de shédim, beaucoup de mauvaises choses qui sont là-bas. Il dit par contre, la montagne du Sinaï, elle vient de la montagne de Jérusalem que Dieu a déplacée après la Akedat Yitzhak et il l'a mis dans le désert. La montagne du Sinaï s'est fait petite parce qu'elle vient de la montagne la plus importante de l'histoire, celle du sacrifice de Yitzhak, selon nos Midrashim. Maintenant, pour répondre à notre question à nous. Mon cher Abenou, tu écris dans la paracha de Vaïkra un petit alef dans le mot Vaïkra. Tandis que dans la paracha de Yitro, tu n'as pas hésité à écrire Vaïkra El Moshe avec un élève complet, parfait, du même niveau que les autres lettres. Pourquoi ? Ici, tu as été comme cela, et là-bas, tu as été comme ceci. Et la réponse est simple. Le Meshech Chochma, il dit, tout simplement, parce que quand mon cher Rabbeinu Alav Shalom, il était en Égypte, il s'est fait huer par les enfants d'Israël. Partout où il allait, il n'y a pas une seule fois où les gens disent « Bravo Moshe ». À peine sort-il d'Égypte, ouais, on n'a pas assez de tombes en Égypte pour que tu nous emmènes ici. Moshe n'est pas apprécié. Moshe ne peut pas s'enorgueillir. De qui? D'être un homme fort et gibor. Personne ne lui retient aucun mérite de ce qu'il est. Par contre, si on continue, quand il y a eu Bizat Hayam, quand il y a eu avant cela le fait que les Hébreux ont demandé de l'or aux Égyptiens, leurs bijoux et ainsi de suite, Moshe cherchait les ossements de Yosef. Il n'a pas eu le temps de s'en enrichir. Quand il y a eu Bizat Hayam, que l'océan a jeté toute la richesse de l'Égypte sur le rivage, Moshe est avec les ossements de Yosef, il ne s'est pas enrichi. Moshe n'était pas écouté. Moshe, tout ce qu'il disait était constamment repris. Les gens se rebellaient contre lui. Moshe ne pouvait pas s'enorgueillir de quoi que ce soit parce qu'il était encore à ce moment-là rien. Il n'avait ni richesse, ni bonne renommée, ni réussite. Il vient pour ouvrir la mer, il ne veut pas s'ouvrir. Et il est où le Gibor ? Moshe était hué. Par contre, après le don de la Torah, Moshe est monté 40 jours et 40 nuits sans boire et sans manger. Et là, il disait, mais quel Gibor ! Quel Gibor ! Il a cassé les tables de la loi. Tout le monde disait, mais qu'est-ce qu'il est fort, Moshe ! Yeshar Koach ! Dieu lui dit, la force est avec toi. Waouh ! Mais Moshe est devenu très riche, car les tables brisées, dont la valeur allait au-delà de toutes les richesses de ce monde, sont devenues la propriété de Moshe. Moshe, maintenant qu'il a reçu la Torah, il est chacham. maintenant qu'il a reçu la Torah et qu'il a cassé, il est gibor, il est devenu riche, donc il peut être un ave. C'est pour cela qu'avant ces événements, quand Dieu l'appelle, Moshe fait partie des gens qui comprennent bien qu'ils n'ont rien de quoi s'enorgueillir. Et maintenant qu'il a reçu la Torah, maintenant qu'il est monté au ciel, maintenant qu'il a eu les forces lui-même de casser les tables de la loi, maintenant que lui peut expliquer la Torah à tout le monde, Torah, Siva, Lanou, Moshe, Morasha, Kilat Yaakov, il est chacham, il est riche, il est puissant, il est respecté, il a toutes les conditions. Par contre, d'être humble quand on a tout ça, on ressemble au Sinaï. Alors à partir de ce moment-là, on comprend maintenant pourquoi là-bas, le Vaïkra est complet, et pourquoi dans cette paracha, le Vaïkra, est en petit. On ne peut s'enorgueillir que quand on a vraiment beaucoup de valeur. Et c'est à ce moment-là qu'on doit travailler son humilité. Et quand on regarde les textes de nos Chachamim, Cheikh Chochma et tous ceux qui les ont précédés, alors on devrait un petit peu se remettre en question avec notre façon de dire « moi » et « je » et « je » et « je » et « je ». Mais t'es qui? T'es quoi? Est-ce que t'es Chacham? Tu connais la Torah, les poskim? Tu sais ce qui est cachère de pas cachère? Tu peux prêter de l'argent à tout le monde, comme Moshe Rabbeinu l'a fait? Tu peux parler panim el panim avec Dieu? T'as un gibor qui peut soulever tous les problèmes de tout le monde? Spécialisé dans les shlom bayit, spécialisé dans la vie? Miata, almaata, nidgaye. T'as fini le chasse? Tu soutiens des avrechim? Tu es capable de contenir ta colère quand tu as raison? Waouh! Là, tu peux dire que tu es humble si tu as travaillé tes midot. Mais la personne, elle est rien du tout. Personne ne le regarde. Il ne possède rien. Il n'a rien. Et il dit, je suis trop orgueilleux. De quoi t'es orgueilleux? Almata, mitgae. Cette leçon, on l'apprend de la Torah de Moshe lui-même, qui lui est passé par le point zéro, où aucune des conditions prescrites n'était chez lui. Et là, quand Dieu lui a dit, Moshe, je t'appelle. Il m'appelle. Moi, ça me rappelle quelque chose d'extraordinaire. Je finirai avec ça pour ce chiour. Quand j'étais directeur un jour d'un kollel à Jérusalem, les gens m'appelaient Rav Twitou. Je pensais à très très longtemps. Rav Twitou, Rav Twitou. Et moi, je répondais, je ne suis pas encore Rav, je ne suis pas 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 Rav. Et là-bas se trouvait un très très grand Tamit Racham du nom de Rav Yedidia. C'était son nom. Un homme d'une connaissance en Torah assez impressionnante. Une grande sagesse. Qui était spécialisé d'ailleurs dans l'étude de Rabbeinu. Et un jour il m'a appelé comme ça et il m'a dit en hébreu, monsieur le directeur, je peux vous dire quelque chose. Je lui ai dit, Vadaï. Il m'a dit, vous dites à tout le monde, vous n'êtes pas Rav, vous n'êtes pas Rav. Et quand vous serez Rav, alors vous direz, vous ne m'avez pas appelé Rav? Je lui ai dit, je ne comprends pas. Il m'a dit, quand on dit à quelqu'un, je ne suis pas Rav, ne m'appelez pas Rav, ça veut dire que quelque part, quand tu seras Rav, il faudra t'appeler Rav. Alors que tu devrais rester transparent qu'on t'appelle ou pas Rav. Même si on n'a pas le droit d'appeler un Rav par son prénom, des choses comme ça, il y a des halachot. Un Rav, on l'appelle Arav. Mais il m'a donné une grande leçon en me disant, c'est un ingénieur aussi, il va aux toilettes. Quoi. Je veux dire, c'est pas parce qu'on est docteur qu'on est au-dessus des autres. Le malade donne toute la valeur au docteur de pouvoir lui donner la magnificence de pouvoir se soigner. La reine, on doit faire un petit peu attention à tous ces titres. Comme il me l'avait dit, quand quelqu'un a envie de t'appeler Rav parce que tu lui as pris la Torah, laisse-le te dire Rav. Tant que tu ne prends pas toi-même pour un Rav, que t'es ou pas ta Théouda. C'était son enseignement. Et j'ai regardé avec un grand sourire en lui disant, c'est merveilleux ce que tu viens de dire. En fin de compte, rester transparent. Il m'a dit exactement. Parce que peut-être que tu es peut-être un meilleur Rav maintenant que peut-être l'avenir. Ou t'auras ta Théouda, tu seras peut-être un moins bon Rav. C'est pas ça qui fait de toi un Rav. Ce qui fait de toi un Rav, c'est que t'es ton Rav, t'es de l'Aïrat Shamaïm, et tu travailles les Shem Shamaïm, tu fasses grandir le nom d'Hachem. C'était ces mots. J'étais très jeune à l'époque. Et je les répète pour lui faire honneur, Bezrat Hachem, de ce bel enseignement. L'humilité se travaille avec beaucoup de finesse, mais il faut savoir aussi où la travailler. Parce que si on n'a pas de quoi travailler, alors pourquoi parler d'orgueil? Kol Tov, Litraot, à tout de suite pour un prochain shiur.